Comme chaque mercredi, à 17h30 sur Radio Campus, c'est l'heure de Lille 1 Info, un magazine qui vous fait découvrir l'Université de Lille 1 sur toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'université et les lycées, ou entre les lycées et l'université de Lille 1, avec Caterina Calgaro, donc, qui est ici présente. Bonjour madame. Donc, effectivement, avant l'université, il y a tout un monde qui s'appelle l'école, le collège, le lycée. Et tout cela amène une certaine population dans les murs de l'université de Lille, hein, pour ensuite évoluer vers des mondes différenciés. Mais pour l'instant, l'université de Lille, on peut dire qu'elle rassemble des publics qui ont des projets très différents et qu'elle forme à partir d'une base qui est donnée avant. Donc comment se passe cette relation entre les lycées et l'université? Qui est-ce qui attend l'autre? Qui est en attente de quoi par rapport à ces échanges?
En effet, on dirait que les deux sont en attente de l'autre. L'université en attente des étudiants, des élèves des lycées qui viennent poursuivre les formations qu'elle propose. Et les lycées sont en attente de mieux connaître l'université, mieux connaître cet univers qui va être assez différent par rapport à ce que les élèves connaissent lorsqu'ils sont au lycée. Et c'est bien pour cela que cette mission qu'on appelle la relation lycée-université a été mise en place, avant tout pour informer les lycéens, pour informer les enseignants du secondaire sur les formations à l'université et aussi sur la pédagogie qui est mise en place à l'université, parce qu'il y a une évolution assez considérable de la manière d'enseigner, de la manière d'accueillir déjà les nouveaux néo-bacheliers et après de transmettre le savoir qui est assez différente de ce que les enseignants ont connu à leur époque lorsque ils avaient fait des études supérieures.
Est-ce que l'université fait encore peur, soit aux élèves, soit aux parents des élèves?
L'université, c'est quand même un monde assez obscur pour eux, si vu de l'extérieur. Et donc, peut-être que ça, certains ils la vivent un peu avec de l'appréhension. Et ça, on le voit bien lorsque on rencontre les élèves et les parents à l'occasion des journées portes ouvertes. Par exemple, on a vu vraiment une évolution ces dernières années. Avant, les élèves venaient tout seuls se renseigner, prendre des renseignements, rencontrer les enseignants qui sont sur place. Et là, de plus en plus, on voit venir les familles complètes, avec les parents qui posent plus de questions que leurs enfants.
Il y a un vrai enjeu maintenant pour les études supérieures en termes notamment de voie professionnelle par la suite.
Tout à fait, tout à fait. C'est quand même un choix important qu'ils doivent faire. Et c'est vrai que vu la multiplication des offres, finalement aussi, des formations, ça devient un univers de plus en plus compliqué et complexe à analyser pour...
Alors, c'est vrai qu'autrefois, en gros, il y avait des domaines, on va dire des grands domaines, et quand on entrait dans une filière universitaire, c'était plus dans un domaine particulier. Maintenant, c'est très pointu, en fait. On ne sait plus, dans la diversité des propositions, pourquoi certaines formations sont proposées, si elles sont là pour différencier le domaine ou pour amener un certain élitisme.
Moi, je dirais quand même les études à l'université sont vues dans une certaine progression qui amène jusqu'à l'insertion professionnelle. Il faut faire attention qu'il y a tout ce passage-là. C'est effectivement de la culture qu'on va donner, mais c'est dans le but de, après, pouvoir ouvrir toutes les portes de l'insertion professionnelle. L'université de Lille 1 plus que d'autres, donc, lorsqu'elle offre une multitude de diplômes différentes, effectivement, c'est parce qu'après, il y a une multitude de voies différentes pour aller vers le monde professionnel. Alors, c'est un peu difficile au départ de tracer c'est un peu le défi, notre défi d'arriver à montrer quel est le métier derrière et quelle est la formation qui amènera vers ce métier. Vu que les métiers sont multiples, c'est un peu difficile à décliner tous les métiers et donc toutes les formations qui amèneront.
Alors, au-delà des métiers, on peut quand même définir les formations comme des champs de compétences particuliers. C'est-à-dire qu'en s'engageant dans une formation bien précise, on acquiert des formations, des compétences particulières qui après peuvent donner la possibilité de travailler dans certains domaines, d'accéder à certains métiers et d'avoir une certaine polyvalence peut-être encore.
Oui. C'est un peu les formations qui sont dispensées à l'université qui sont un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans les BTS par exemple, dans d'autres formations courtes. C'est le fait de donner une base de connaissances assez solide. Là, c'est ce qui forme un peu le socle des connaissances de la licence, pour après décliner un peu ses compétences plutôt au niveau d'un diplôme type master qui est plutôt censé amener vers le monde du travail. Après, c'est un choix, évidemment, c'est un choix aussi au départ de l'élève, de l'étudiant, de dire est-ce que je vais faire un cycle court ou un cycle long d'études pour aller vers le monde du travail. N'oublions pas qu'il y a aussi toutes les formations qui amènent à un niveau bac plus 2 ou bac plus 3 dans le monde du travail, et donc ce qui est, comme je disais tout à l'heure, les BTS ou les IUT, et après les licences professionnelles qui se sont un peu accrochées et qui ont permis une rallonge d'un an au niveau des études pour rentrer un peu dans le système européen dit licence, master, doctorat, pour la reconnaissance des diplômes.
Alors, cet allongement, on va dire, des études peut aboutir aussi pour des jeunes qui n'ont pas de ressources particulières à cet âge-là, soit à renoncer parfois à des formations longues, soit à trouver un travail intermédiaire qui leur permette d'assurer leur survie.
Oui, c'est plutôt ce qu'on remarque. Il y a eu des enquêtes statistiques au niveau des étudiants de l'ILA faites par l'OFIP, qui est un service de l'université, qui est pour la formation et l'insertion professionnelle, et qui a un peu étudié la situation financière des étudiants de l'université. Et on s'est aperçu que presque 40% des étudiants font un boulot à côté. Mmh. Alors ça peut être un petit boulot, ça peut être un boulot assez conséquent. Et ce qu'on a remarqué, c'est plutôt, alors je n'ai pas les chiffres en tête, hein, combien font des petits boulots, combien font des grands, mais plutôt ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on dépasse un nombre d'heures, autour de la dizaine d'heures, si on fait des petits boulots à côté de sa formation universitaire, qui est plutôt de l'ordre de 10-15 heures, bah, ça va certainement influencer sur la réussite des études. Donc, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à ne pas réussir correctement leurs examens, à rallonger encore plus la durée d'études. Et ça, c'est un phénomène social, hein, mm-hmm. manière qui va bien au-delà de la pédagogie ou des connaissances qu'on va transmettre.
Est-ce que c'est cet état des lieux, on le retrouve dans d'autres pays européens ou c'est spécifique à la France, le fait de travailler pour assurer ses études?
Je pense que ça doit être un peu lié à un système de bourses qui sont dispensées sous critères sociaux par les familles. Après, je ne connais pas vraiment le système ailleurs. C'est probable qu'il y ait des phénomènes comparables. Je ne vois pas une spécificité de la France là-dessus par rapport à ce type de phénomène. Le problème, c'est qu'effectivement, on est dans un système relativement rigide d'études qu'il faut le faire. Hein. On a des cours dispensés sur un semestre, etc. Et si on ne peut pas suivre ce rythme parce que et on ne peut pas non plus travailler chez soi ou en petit groupe avec les autres étudiants parce qu'on est occupé par le travail, et ben, c'est clair que l'influence.
Donc dans ces conditions économiques actuelles et qui n'ont peut-être pas tendance à s'améliorer, qu'est-ce qui influence le futur étudiant? C'est d'avoir les parents qui payent les études ou d'avoir un petit boulot et d'être plus autonome sur le choix de la discipline, de la formation? Ça peut jouer aussi sur le choix?
Je pense que ça joue plutôt sur la durée des études. Mmh. S'ils ne voient pas clair comment ils peuvent faire dans des situations normales leurs études sur 2-3 ans, ils vont plutôt choisir des parcours courts qui assurent relativement vite des débouchés professionnels pour après éventuellement revenir sur leur choix et rallonger leurs études et donc passer par exemple d'un parcours qui devrait se terminer sous 2 ans pour amener le monde du travail et après passer à faire une troisième année, éventuellement un master derrière. Parce que la situation financière ne permet pas de faire des projections sur le long terme, mais plutôt toujours sur le court terme.
Alors, quand on envisage des études à long terme, donc on va dire master, est-ce qu'il faut avoir une formation plus complexe au départ, plus complète, et avoir peut-être une intelligence supérieure à des études plus courtes? Est-ce que ça peut pénaliser? Est-ce qu'il y a un niveau minimum pour avoir un master au départ, ou est-ce que ça c'est comme en BTS sauf que c'est plus long?
Je dirais que ça dépend un peu de l'envie, de toute manière, d'arriver à aboutir à un certain projet personnel, et après compétence, c'est aussi étudier, savoir apprendre des notions. Je ne vois pas la différence pour quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'apprendre. Il peut apprendre sur un parcours court et sur un parcours long. Alors, comment ils sont structurés les parcours longs? Effectivement, on commence par une licence, comme j'avais dit tout à l'heure, qui donne un peu les connaissances théoriques dans un certain domaine. Et après, on va les décliner plutôt dans des connaissances plus pratiques ou dans la mise en pratique de ces connaissances, plutôt dans un niveau master. Par contre, lorsqu'on fait des études à cours sur 2 ans, 3 ans, cette déclinaison dans des compétences plus spécifiques, plus pratiques, ça va être fait avant. Et donc, il y aura moins de base théorique qui sera dispensée. Et voilà.
Alors, vous parliez de motivation, c'est peut-être une clé importante de la réussite, la motivation. Ça veut dire peut-être déjà avoir une idée un peu précise de son projet.
Oui, certainement. C'est quelque chose qu'on essaye de faire passer, ce message-là, lorsqu'on va à la rencontre des lycéens dans leur établissement. Par des séances d'information, de quels sont les différents diplômes qu'on peut acquérir à l'ILA, comment est organisée en pratique la vie d'un étudiant, surtout voilà, qu'est-ce que ça change par rapport à leur milieu, à ce qu'ils ont connu au lycée, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que c'est pareil un peu à l'université. Et on insiste beaucoup sur la motivation, sur la l'assiduité, une régularité dans la compréhension des notions qui vont être abordées. Et on voit que c'est un peu ça, c'est un peu cette question d'autonomie, de liberté qui est laissée à l'université, c'est ça qui est... c'est un attrait, et de l'autre côté ça fait peur parce qu'ils se disent je suis perdu dans un monde, je ne connais personne, c'est vaste, c'est grand, je n'ai pas de référents. Ils se font cette image là de l'université, et ces dernières années, et surtout ces 2 dernières années, avec le soutien qui vient aussi du ministère sur le plan réussir à licence, ça a permis de mettre en place beaucoup d'actions d'accompagnement ces étudiants qui arrivent en première année de licence, donc dans beaucoup de secteurs de l'université, par exemple, on ne fait pas au premier semestre des cours en amphi, mais on fait des cours, on dit de TD, des travaux dirigés, donc, dans un groupe qui est l'équivalent de la classe qu'ils ont connue au lycée. Ils auront donc des enseignants référents, effectivement un par matière, par unité d'enseignement différente, mais ils auront toujours le même enseignant auquel ils peuvent faire référence. Ils ont un directeur d'études qui est le référent pour tout un groupe et pour tout un semestre, voire plusieurs semestres, deux semestres ou trois semestres pour leur début d'études. Ils ont des secrétariats pédagogiques spécifiques pour chacun des parcours qui sont mis en place sous l'université. Donc on essaye de leur montrer déjà au niveau de la structure qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'analogie par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Et après, au niveau de la pédagogie, donc j'avais parlé qu'il n'y a plus des cours en amphi au premier semestre. Depuis cette année aussi, on fait, avant c'était par petite dose, là maintenant ça devient de plus en plus étendu, ce qu'on appelle du contrôle continu, c'est un peu ce qu'ils connaissent eux au lycée, c'est-à-dire que de temps en temps, voilà, il y a un petit examen qui dure un devoir surveillé qu'on fait et tous ensemble, sera corrigé, il va donner contribution à une note finale qui va remplacer éventuellement l'examen des fins de semestre, s'ils ont bien réussi, s'ils ont la moyenne sous leur contrôle continu. Il y a un système qu'on appelle COL, parce qu'on fait un peu penser...
Ça fait penser aux écoles, hein, tout ça, le système qui, pendant un moment, avait comme attrait justement un meilleur suivi prétendu, ou peut-être qui existait, des étudiants. Alors, vous avez réexploiter ces recettes, en fait.
On réexploite ces recettes avec moins de moyens, malheureusement. Les moyens qui sont donnés à l'université ne sont pas les mêmes qui sont donnés aux classes prépa ou au BTS. Mais ce qui est clair, c'est qu'un suivi régulier des étudiants, un contrôle régulier de leurs connaissances pour voir très vite où ils n'ont pas compris certains concepts pour les retravailler mieux et pouvoir avancer sans créer des lacunes qui vont s'agrandir de plus en plus, c'est clair que c'est la clé, une des clés de réussite après d'une année scolaire, d'un semestre, que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs. Et donc, effectivement, oui, on essaie de mettre en place de plus en plus un système qui est déjà mis en place ailleurs parce que les moyens étaient donnés ailleurs. Donc, est-ce que c'est un peu... c'est certainement quelque chose qu'on a remarqué, hein, la difficulté de nos étudiants. On parle des faibles taux de réussite à licence. Ben c'est parce que, effectivement, un certain nombre d'étudiants décrochent vu multiples difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils soient d'origine financière, qu'ils soient d'origine d'accompagnement, finalement, dans leur prise de conscience de l'autonomie. Finalement, ils vont acquérir petit à petit. Mais cette transition, là, on essaye quand même de les accompagner, voilà, qu'elle ne soit pas brutale, dès qu'ils rentrent la première semaine à l'université, mais qu'ils soient un peu, qu'ils prennent un peu conscience petit à petit au cours de la première année.
Voilà, donc, en amont de cela, il y a le parcours, j'allais dire, d'orientation, c'est-à-dire se repérer dans les diverses formations. Est-ce que les lycées ont en interne des ressources, j'allais dire, humaines pour présenter aux élèves les différentes possibilités qui sont offertes? Et est-ce que aussi ces possibilités sont proposées par rapport à des compétences qui sont dégagées? Des profils d'élèves à qui on conseille tel type de formation ou d'autres?
Ben, alors, dans les lycées, il y a des figures qui sont les conseillers d'orientation et psychologues qui, effectivement, sont là pour faire ce travail d'information et d'aide à la prise d'une décision par l'élève. Je ne parlerai pas de sélection par rapport à certains profils plutôt qu'un autre, c'est plutôt au niveau du goût. Effectivement, on peut les conseiller par rapport un peu aux compétences qu'ils ont montrées pendant les années d'études au lycée, mais c'est plutôt avant tout une question de ce qu'ils veulent devenir. Voilà, c'est ce qu'ils ont envie de devenir. Et plutôt les capacités, on va plutôt mettre un positif, les capacités qu'ils ont, plutôt que mettre un négatif là où ils sont en défaut. Mais le problème, c'est qu'effectivement, voilà, ces personnes qui sont là, quelquefois, ne sont pas au point des derniers changements qui sont arrivés au niveau de l'université. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle cette mission de relations lycée-université, qui finalement est un groupe, un réseau des correspondants dans les lycées, donc ces conseillers d'orientation, ou des professeurs principaux des classes, des terminales, des premières. Et ici, un groupe d'enseignants, chercheurs ou encore des gens du soyau qui permettent de présenter finalement un peu l'université, tous les dispositifs qui se mettent en place et qui évoluent finalement relativement rapidement ces dernières années.
Donc on peut supposer que ça pourrait faire partie de la formation continue de ces personnels qui sont chargés de l'orientation ?
Oui, c'est de la formation continue parce que ça rentre dans ce qu'on appelle le plan académique de formation et on propose chaque année au moins une réunion, voire plusieurs au cours de l'année pour les informer là-dessus. Donc cette année, il y a eu une réunion qui a eu lieu en octobre un peu pour faire un bilan des actions qui avaient eu lieu l'année dernière et pour proposer un peu, mettre en place un peu les actions de cette année. Et il y a eu une autre, et donc là on avait une quarantaine de participants, moitié conseiller d'orientation, psychologue et moitié enseignant, principaux. La semaine dernière, il y a eu une autre journée encore de formation pour ce personnel-là, ce n'était pas tout à fait les mêmes qui étaient venus en octobre, pour expliquer toutes les nouveautés du plan réussir à licence, pour leur expliquer un peu.
Alors, est-ce que du côté des universités, pas forcément de Lille, hein, on essaye justement de s'attirer ces personnels, justement, pour qu'ils conseillent aux élèves de venir plutôt dans notre université plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a un rapport de ce type-là avec les personnels?
Je dirais que l'ILA est quand même un peu avant les autres universités, au moins de la région, pour ce type de démarche. Hein. Ces actions-là d'information vers les lycées ont déjà démarré depuis 2003 ou 2004. Et ce type de démarches sont faites parce qu'on va un peu... Peut-être c'est un peu lié au fait de ce qu'on appelle la désaffection des étudiants vers les sciences. On est un peu plus sensible, nous, au niveau, si on regarde les universités de la région, ou simplement de Lille, hein, de Lille 3, c'est vrai qu'on a peut-être vu un peu un fléchissement des inscriptions des néo-bacheliers dans les filières scientifiques. Donc, du coup, on a anticipé un peu le phénomène, on est allé faire de l'information pour nos formations.
Formation, presque démarchage, on va dire, un peu.
Non, c'est pas du démarchage, parce que de toute manière, c'est ce qu'on a vu aussi ces dernières années dans les lycées, c'est que cette information donc vient en fait de plus en plus dans les lycées, et les lycées, justement pour éviter ce qu'il y ait à favoriser un institut plutôt qu'un autre, une université plutôt qu'un autre, font des journées forums. Forum des formations, forum des métiers. Et alors, on voit tout. Hein. On ne voit pas simplement les universités de la région, mais même plus loin, que ce soit du public, que ce soit du privé, et tout le monde est là. Et donc, on est plus ou moins au même niveau.
Alors, c'est vrai qu'on a ces salons de l'étudiant, ces forums, etc. Et est-ce que, d'un point de vue uniquement Université de Lille 1, il y a des journées portes ouvertes où on fait connaître l'environnement déjà, les lieux et aussi les différentes formations?
Mais il y a la journée classique, dite journée des portes ouvertes, qui se fait chaque année sur la métropole. Cette année, elle a eu lieu fin janvier, 31 janvier. Mais il y a aussi une autre action qui fait toujours partie des relations lycée-université, qui est animée par le SUAYO, qui s'appelle les journées découvertes ou les demi-journées découvertes, où on propose aux étudiants volontaires, aux lycéens volontaires des terminales ou des premières, d'un certain nombre de lycées qui sont dans la métropole lilloise, mais on peut aller même plus loin éventuellement, de venir sur l'île, une demi-journée finalement sur l'île, hein, et découvrir les lieux, mais en action. Mm-hmm. La journée porte ouverte a lieu le samedi chaque année, hein, donc l'université n'est pas vraiment en action. Certainement les enseignants sont là, des étudiants sont là, il y a quelques manifestations qui se passent dans certains lieux, mais c'est pas une journée de la semaine. Et le mercredi, en général, ces journées ont lieu le mardi ou le mercredi. Ça semble être le plus favorable pour les établissements, hein, du secondaire. Et ils viennent et voient vraiment une université vraiment en fonction. Donc ils vont participer. Bon, ils vont assister peut-être à un petit cours en amphi, mais qui est à leur niveau. Ça, ils découvrent qu'est-ce que ça veut dire un cours en amphi. Ils vont participer par petits groupes de 8 ou 10 élèves dans des TP qui ont lieu, donc dans les différentes disciplines. Donc ils vont là avec les étudiants qui sont là en train de faire leur manip, leur TP. Ils vont visiter des laboratoires, des recherches, etc. Ils vont découvrir et après ils vont aussi discuter avec des étudiants donc un peu plus âgés qu'eux, mais lesquels ils peuvent vraiment comprendre quelle était leur expérience, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est à l'université depuis quelques années, voilà, qu'est-ce que c'était le passage.
Alors, dans les parcours de formation des élèves, il y a des moments, on va dire, de stage, enfin, petit stage, hein, mais de sensibilisation à l'entreprise, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez dans l'université des lycéens qui viennent pour être sensibilisés à l'univers professionnel des universités? Vous en recevez, vous en accueillez?
C'est des démarches personnelles. Hein. De temps en temps, on a effectivement quelques étudiants qui nous contactent à ce niveau-là pour venir voir qu'est-ce que c'est le petit stage qu'ils doivent faire au mois de juin, une semaine à l'université. C'est relativement rare, hein, pour l'instant, aussi parce que ça demande quand même un encadrement un peu particulier. Un autre moyen d'être en contact avec l'université, plutôt avec la recherche, c'est dans ce qu'ils doivent faire dans le TIPE. Dans le TIPE, ils ont un sujet, donc en première, à découvrir, qui est plutôt interdisciplinaire, et parfois ils ont besoin d'un apport qui est d'un scientifique, voilà, au-delà de leur prof du lycée. Et donc, on a des contacts à ce niveau-là, donc on a une adresse mail à laquelle ils peuvent répondre, ils ont des enseignants référents à ce niveau-là, pour les aider, et donc du coup, ils sont en contact avec le monde universitaire aussi.
Voilà, donc là on est, j'allais dire, fin février. Comment ce mois, par exemple, par rapport à l'inscription à l'université est perçu? On est proche d'une échéance?
Ils sont proches d'une échéance parce que depuis l'année dernière, sur l'Académie, et cette année dans toute la France, il y a une phase d'inscription sur un portail qui s'appelle l'admission post-bac, dans lequel tous les futurs néo-bacheliers, il faut qu'ils aillent s'inscrire, qu'ils fassent un choix des formations qu'ils veulent suivre après le bac. Alors, il y a des formations sélectives, comme les BTS, les classes prépa, les IUT, des formations non sélectives, comme l'université. Mais ils doivent faire un certain nombre de choix. Alors, le nombre de choix, ça doit être autour de 24 choix qu'ils peuvent mettre là-dessus. Et la période pour le faire cette année, ben, ça a déjà démarré. Ça a démarré fin janvier et ça va s'arrêter vers fin mars, 23-24 mars. Après, donc ils ne pourront plus rentrer les choix, mais ils pourront encore changer l'ordre des choix pendant une certaine période. Et après, évidemment, il y aura, en fonction des choix qu'ils ont faits, une sélection pour tout ce qui est filière sélective, etc. Et là-dessus se griffe ce qu'on appelle l'orientation active, qui est un dispositif pas obligatoire pour les lycéens à prendre, mais c'est le dispositif de l'université qui est mis en place pour mieux les informer, pour une aide à la décision, d'une certaine manière. Donc ceux qui font un choix université et qui font un choix pour une certaine discipline, ils se verront proposer ce dispositif. Et donc s'ils cochent la case correspondante, ils doivent remplir un certain nombre d'informations. Et ça signifie que là derrière, après, il y aura des équipes pédagogiques au niveau de l'université qui vont récupérer ces données, qui vont analyser les dossiers et qui vont en mettre un avis par rapport un peu à la formation et donc finalement à la réussite du lycéen et par rapport au choix qu'il veut faire et à ses motivations pour aller s'inscrire dans une certaine filière, dans un certain diplôme plutôt qu'un autre. Donc c'est rien, c'est pas sélectif du tout, mais c'est pour les aider à mieux évaluer leur choix, s'il est bon ou s'il faudrait peut-être le revoir de certaines manières, éventuellement leur proposer des entretiens avec l'équipe pédagogique pour mieux définir le choix.
Voilà, Caterina Caligaro, merci. Peut-être une dernière précision, un dernier conseil avant de nous quitter ?
Je dirais que pour les élèves qui sont en train de faire cette admission post-bac, d'aller bien se renseigner, de regarder un peu sur les sites des universités. Donc, je ne parle pas simplement pour l'ILA, mais pour les autres aussi. Il faut un peu aller chercher un peu les formations, comprendre bien quelle est la structure. Ce n'est pas toujours simple dans toutes les filières. Et faites cette orientation active, elle est là pour vous. Et c'est simplement un aide qu'on vous apporte. Voilà, on est là pour vous aider à mieux choisir, à bien choisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.